Bonjour, je n'apprendrai pas grand-chose aux auditeurs de RFI en général et à ceux de la danse des mots en particulier, en leur rappelant que nous sommes en ce moment dans la semaine de la langue française. Donc non seulement nous parlons français, mais nous parlons de cette langue. Et comme il y a quelques jours, nous donnions les résultats de notre jeu Speakons français, on aura au téléphone tout à l'heure un deuxième gagnant qui nous expliquera un petit peu comment il a eu l'idée de nous donner la réponse qu'il nous a fait parvenir. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Ensuite, nous sommes mercredi, c'est le jour de la puce à l'oreille, donc on retrouve Lucie Bouteloup avec sa puce hebdomadaire. Et tout de suite, nous allons parler d'un projet éducatif qui met la langue française au premier plan. C'est le projet qu'on appelle eTwinning. Jean-Jacques Thibault, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous au micro de la danse des mots pour nous parler de ce projet éducatif européen, enfin au moins européen et peut-être un petit peu plus, qui permet justement qu'on puisse travailler entre écoles, entre lycées, entre collèges qui appartiennent à des pays différents et qui peuvent travailler dans des langues extrêmement différentes et souvent le français. Alors, en deux mots, qu'est-ce qu'on appelle e-twinning? Je sais bien que le mot est en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire jumelage, quelque chose comme ça, jumelage électronique?
Alors exactement, e-twinning, c'est le jumelage électronique. Donc jumelage électronique entre classes de tout niveau, c'est-à-dire que eTwinning est un programme qui concerne toute l'école avec un grand E, de la classe maternelle à la classe terminale, voire certaines classes de BTS, qui concerne également toutes les disciplines. Et ce programme va permettre à ces élèves de travailler ensemble sur un projet commun. Voilà, donc ce programme va fêter c'est 10 ans
bravo,
cette année,
bon anniversaire.
En 2015, il faut attendre le mois de mai pour être vraiment dans les temps, car effectivement, eTwinning est né en mai 2005. Il a été donc mis en place par la Commission européenne pour permettre donc de manière très simple, parce que c'est ça sans doute la grande qualité d'eTwinning, c'est la simplicité de la mise en œuvre de ce projet. Aucune paperasse, pas de dossier à remplir, en quelques clics de souris, tout enseignant de toute discipline peut se créer un compte et rechercher en Europe un partenaire avec lequel monter un projet.
Donc un exemple, je suis instituteur, j'ai une classe par exemple de, je sais pas, CE2, donc des enfants qui doivent avoir à peu près 9 ans à peu près, j'aimerais bien travailler avec une autre classe et des élèves qui parlent la même langue que les miens, donc je vais chercher une classe qui soit en Belgique, soit en Suisse, soit même ailleurs, avec des gens qui peuvent travailler en français comme mes élèves, c'est bien ça?
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, je suis instituteur, première démarche, je m'inscris sur le site eTwinning, il y a un site eTwinning européen et puis il y a des sites eTwinning dans différents pays, donc il y a un site eTwinning français.
Oui.
Donc je m'inscris sur ce site eTwinning français, je donne une idée de projet, un thème qui m'intéresse, naturellement l'âge de mes élèves, et à partir de là, une fois inscrit, je vais pouvoir être découvert par des enseignants d'Europe, et moi-même, je vais pouvoir rechercher parmi une base de données qui recense tous les inscrits, un enseignant qui pourrait correspondre à mes critères de recherche.
C'est-à-dire qu'on se met un petit peu aux enchères. On dit par exemple, ben voilà, j'ai une classe de CE1, j'aimerais par exemple inventer une pièce de théâtre ou un petit scénario sur un voyage sur la Lune avec 25 élèves qui ont à peu près 8 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça intéresserait et qu'il y aurait une classe qui corresponde un petit peu, qui soit un peu le symétrique de la mienne?
Ben,
est-ce que c'est ça?
Vous avez tout compris. C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, par exemple, c'est une très bonne idée, il y a de nombreux projets qui se montent autour de l'écriture collaborative, par exemple, d'un conte. Alors ce conte, ça peut être une nouvelle policière, ça peut être une BD, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer, ça peut être aussi un magazine de société par exemple, et donc je vais préciser tout cela sur ma fiche, et d'une part je vais attendre qu'éventuellement quelqu'un me contacte, mais moi-même je vais faire une recherche pour voir s'il existe, s'il y a parmi les inscrits, mmh. un enseignant dont peut-être les enfants, les élèves sont francophones, mais peut-être aussi tout simplement une classe étrangère dont les élèves apprennent le français. Parce que, bien évidemment, dans le cadre d'un projet e-twinning, la langue devient l'outil de communication au service du projet. Ce qui veut dire que, et ça se vérifie évidemment, on trouverait des centaines d'exemples, de classes dont les élèves ne sont pas francophones, mais apprennent le français, et qui vont monter leur projet en langue française. Par exemple, une classe de Madrid qui va se jumeler avec une classe de Turin, mmh. et qui vont travailler en français parce que les deux classes apprennent le français.
Vous voulez dire qu'il peut y avoir des projets, disons, francophones entre deux classes dont aucune n'est située en France.
Exactement.
Et aucune n'est située dans un pays francophone. Puisque
Exactement.
L'exemple que vous donnez, il y en a un en Espagne et puis l'autre qui est en Italie. Les deux classes apprennent le français, ils peuvent décider de travailler en français tous ensemble.
Tout à fait. Mmh. De la même manière que nos jeunes élèves en France vont par exemple travailler en anglais, quand ils seront jumelés avec une classe suédoise, danoise ou allemande. Voilà. Donc, alors, bien évidemment, il faut comprendre aussi que la langue, quand on dit la langue, ça peut être les langues, puisqu'il y a également de nombreux projets qui vont faire appel à deux langues, par exemple, voire trois, car si, au départ, un projet se monte entre deux classes, rien n'empêche par la suite d'autres classes à rejoindre ce même projet. Donc, il y a des projets qui se sont montés à 4, 5, 10, 15 pays différents. Et je pense là notamment à un projet qui s'est déroulé en France, dans l'académie de Versailles, pour être précis, et qui regroupait une bonne douzaine de pays européens. Ils ont créé ensemble une bande dessinée. Cette bande dessinée a été traduite par les élèves dans 9 langues différentes. Donc là, c'est un projet très ambitieux, un peu en dehors de ce que l'on peut trouver habituellement, mais c'est pour donner un exemple de ce qu'il est possible de faire.
Donc le scénario a été élaboré par l'ensemble des classes qui participent au projet. Les dessins ont été faits aussi par des élèves qui appartenaient à toutes ces classes qui collaboraient, et il y a eu une version par langue.
Exactement, ouais. Exactement. Les élèves ont créé la bande dessinée. Il y avait des dessinateurs, il y avait des coloristes, il y avait des auteurs évidemment, et tout cela a donné naissance à cette bande dessinée qui a été donc traduite en 9 langues différentes.
Ça, c'est intéressant de voir que vous utilisez ce mot de traduite. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle a été traduite? Elle a été élaborée dans des langues différentes. On peut même penser peut-être que les dialogues ou que la narration qui l'accompagnait n'était pas exactement la même selon les langues.
très certainement, puisque bien évidemment, vous avez raison, est-il possible vraiment de traduire mais en tout cas, l'idée était...
On suivait le même parcours,
voilà,
on suivait la même, en gros, la même histoire, mais pour arriver depuis le A de l'histoire jusqu'au Z de l'histoire, peut-être que les dialogues, justement, étaient un petit peu différents.
Alors, voilà,
sachant qu'il fallait que ça s'adapte au même dessin.
Alors là, en l'occurrence, ça allait, je dirais, plus loin que cela, parce qu'il y avait tout un aspect également culturel, puisque cette bande dessinée retraçait l'histoire d'une puce qui voyageait dans les pays européens et qui rapportait de ses voyages des témoignages de ce qu'elle avait vu. Donc, bien sûr, en France, elle est venue visiter la Tour Eiffel, mais à Madrid ou à Turin ou à Berlin, elle est allée visiter d'autres monuments. Et donc, il y avait, en dehors, en plus de cet aspect linguistique, il y avait tout l'aspect culturel. Et bon nombre de projets e-twinning, d'ailleurs, font appel à cet aspect culturel.
Bien, rien que l'idée d'une puce qui visite la Tour Eiffel m'enchante. Et avant d'écouter la puce à l'oreille, puisque là encore, on l'écoutera tout à l'heure, un petit peu plus tard, je vous propose d'écouter un petit peu de musique et puis on revient à ce projet e-twinning.
Thank you.
Après ce Toninho de Carnot qui nous emmenait pas vraiment à la Tour Eiffel, mais plutôt du côté du pain de sucre ou de Rio de Janeiro, revenons à ce projet eTwinnings avec vous. eTwinning ou eTwinnings?
eTwinning.
Oui, il n'y a pas d'S. Hein. Jean-Jacques Thibault, on a vu que c'était donc un projet au départ européen, et peut-être plus large que ça, on y reviendra, mais aussi un projet multilingue. Quelles sont les langues les plus concernées par ce dispositif pédagogique?
Alors, la langue la plus utilisée, de manière assez logique, en tant que langue de communication, c'est l'anglais. Derrière l'anglais vient la langue française. Il y a de très nombreux projets qui se montent en langue française. Il faut savoir que la France est un des pays les plus actifs sur eTwinning, avec la Pologne, l'Italie, mais c'est un peu le trio de tête. eTwinning, c'est quand même aujourd'hui en Europe plus de 300 000 enseignants qui sont inscrits et plus de 40 000 projets qui se sont montés dans le cadre d'eTwinning.
Oui, donc c'est quand même gigantesque.
C'est quand même, oui. C'est un dispositif qui prend de plus en plus d'ampleur, effectivement. Oui. Et le français, donc, a une part très importante en tant que langue de communication au sein de l'Europe.
Et alors, vous disiez tout à l'heure que très souvent, c'était un projet qui servait à ce qu'on travaille dans une certaine langue, mais qu'on passe aussi la culture qui était derrière cette langue, la culture ou les cultures, puisque la culture francophone de France n'est pas forcément la culture francophone de Tunisie, de Belgique, du Cameroun, etc.
Alors oui, complètement. C'est-à-dire que eTwinning permet en fait aux enseignants de dépasser très largement le cadre du simple apprentissage de la langue. Alors d'une part, en plaçant les élèves dans des situations totalement authentiques de communication. Là, on entre directement dans ce qu'on appelle la pédagogie actionnelle.
Alors qu'est-ce que vous entendez par situation authentique, justement?
Ah ben, c'est-à-dire que là, pour une fois, parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas, les élèves comprennent que sans cette langue commune, ils n'ont pas la possibilité d'échanger et de travailler avec leurs partenaires. Ils ont besoin de cette langue. Ça n'a aucun rapport avec le fait, par exemple, de parler en classe avec un professeur d'anglais, mais qui, en fait, parle français comme moi. Donc là, bien évidemment, si on ne se fait pas comprendre de ses partenaires, le travail n'est pas possible, le projet n'avance pas. Et donc là, les élèves prennent conscience de ça.
Donc c'est une vraie situation de communication.
Exactement,
c'est pas de la communication artificielle.
Si je ne me fais pas comprendre,
on ne me comprendra pas, quoi.
Exactement, exactement. Et donc, effectivement, la grosse majorité des projets qui se montent ont également tout un aspect culturel. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, pour illustrer ces propos, de nombreux projets vont se monter autour, par exemple, d'un patrimoine culturel de la ville ou de la région.
Donnez-nous quelques exemples. On a vu la puce de la Tour Eiffel, mais...
Alors, on peut imaginer, par exemple, que deux classes, pour faire simple, on va prendre deux classes qui vont travailler ensemble et qui ont comme projet d'élaborer un carnet de voyage. Donc, on va faire en sorte que les élèves échangent, communiquent et aient besoin d'informations que les partenaires vont, et bien sûr, leur donner. Par exemple, je vais envoyer à mes partenaires des photos, des témoignages audio, à partir desquels ils vont devoir créer un carnet de voyage en imaginant, par exemple, qu'ils viennent passer une semaine chez moi. Donc, qu'y a-t-il d'intéressant à voir dans ma région? Et moi, de la même manière, que vais-je aller voir quand je vais aller chez eux? Donc, ils vont m'envoyer des photos, ils vont m'envoyer peut-être des petits films avec, à l'aide desquels je vais faire un montage, je vais élaborer un petit livret, un petit carnet de voyage, un petit guide touristique. Et puis, par exemple, ces deux petits guides touristiques pourront ensuite être mis sur Internet. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, mais qui est très important.
Alors, dites-le-nous tout de suite, Jean-Jacques
Thibault.
Voilà,
c'est que quand les élèves sont en projet eTwinning, ils ont accès à un espace de travail collaboratif. Un espace de travail, donc, sur lequel...
Qu'est-ce qu'on appelle, alors, un espace collaboratif? Qu'est-ce que ça veut dire, ce joli mot de collaboratif?
Ça veut dire que les élèves vont pouvoir déposer des fichiers, des textes, des images, des sons, des vidéos sur Internet, sur cet espace de travail donc qu'ils partagent, auquel ils accèdent avec un login et un mot de passe. L'enseignant, en fait, crée un compte pour chacun de ses élèves. Et chaque élève va pouvoir, avec ce mot de passe et cet identifiant, se connecter sur cet espace pour déposer ses documents. Donc, je vais déposer des photos, je vais déposer des vidéos, des fichiers son, et je vais dire à mes partenaires, avec ces éléments que je vous donne, essayez, par exemple, de créer un carnet de voyage.
Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications, Jean-Jacques Thibault. J'imagine que de plus en plus nombreux seront les enseignants et les élèves qui pourront donc se relier à ce grand réseau d'eTwinning. Et il est temps maintenant de dire un petit mot de notre jeu Speak en français, puisque nous avons un rendez-vous avec l'un des gagnants, ou en tout cas l'un des auditeurs qui a participé à ce jeu de façon très active et très fructueuse.
Speakons français.
Speakons français.
Et speakons français.
Parlons français, c'est ça?
Speakons quoi?
Français.
Bonjour Léon de Pertuis.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'un des auditeurs de RFI qui avait participé à ce jeu, Speakons français. Vous avez particulièrement bien speaké, je trouve, puisque parmi les 30 anglicismes qui étaient proposés aux auditeurs, vous avez choisi selfie et vous avez proposé, je vais pas le dire à votre place, quelle est donc la proposition que vous faites pour remplacer ce mot de selfie?
Ce serait auto, qui est un mot valise, une contraction entre le préfixe auto, classique, quoi, et tof, qui serait une version en verlan de photo.
Donc, on a les deux qui se communiquent auto pour reprendre l'idée de self, de soi-même, quelque chose donc qui se regarde d'une certaine façon en miroir, et puis le tof qui est la photo.
Tout à fait, avec une approche peut-être un petit peu moderne du coup avec le verlan pour reprendre la popularité du mot selfie, et puis aussi pour que ça reste très court, quoi, pour que ça puisse avoir une vraie fonction de remplacement si jamais ça marche. Bon, j'y crois pas trop, mais on sait jamais.
Pourquoi pas? Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous avez essayé déjà de dire « Ah, je vais prendre un autof. Tiens, mets-toi à côté de moi, on va prendre un autof. »
Je l'ai fait avec des amis, justement, on s'est retrouvé sur le problème du masculin-féminin. On savait pas comment le prendre, du coup, mais on est resté sur un autof.
Un autof. Parce que c'est vrai qu'une autof, c'est pas mal, parce que ce qu'il y a de bien en même temps dans votre mot, c'est que autof est presque un anagramme de photo.
Tout à fait. Ça, c'était totalement involontaire, mais on s'est rendu compte que ça collait pas mal.
Ouais, involontaire, c'est l'inconscient qui parle, en tout cas. Bon, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir raconté tout cela, Léon de Pertuis. Encore bravo, et il est temps maintenant de retrouver la puce à l'oreille et Lucie Bouteloup.
L'oreille.
Bonjour Yvan.
Bonjour Lucie.
Mieux vaut prévenir que guérir, dit un célèbre dicton français. Alors, après vous être tenu à carreau la semaine dernière avec Jean Pruvot, j'ajoute une autre corde à votre arc cette semaine en vous recommandant de numéroter vos abatis. Numérote tes abatis. Une formule que vous emploierez peut-être vous aussi très bientôt pour dissuader votre meilleur ennemi de vous chercher des noises. À condition, toutefois, que vous en maîtrisiez le sens et pourquoi pas aussi l'origine. Pour nous aider aujourd'hui donc, la puce à l'oreille a le plaisir de recevoir Daniel Lacote. Journaliste, mais aussi écrivain, il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont un qui a particulièrement attiré notre attention sur les expressions les plus truculentes de la langue française, paru chez Larousse. Bonjour Daniel Lacote, ravi de vous avoir encore parmi nous aujourd'hui.
Bonjour Lucie.
Alors, numéroter ses abatis, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc avant d'écouter l'explication du spécialiste, je voudrais vous laisser découvrir ce qu'ont imaginé de jeunes adolescents parisiens autour de cette expression. On se retrouve juste après ça.
La puce à l'oreille.
C'est faire gaffe à pas trop faire de problèmes.
C'est genre prépare ta tombe ou un truc comme ça, non?
Fais pas de bêtises, je sais pas. Numérote à qui t'as prêté de l'argent?
C'est à la morgue. En fait, y a les cadavres, ils ont un numéro. Et quand on dit numérote tes abatis, Ça veut dire prépare ton truc à la morgue, en fait.
C'est comme si on devait prévoir quelque chose pour après, pour pas faire de problème.
Bah en fait, abattis, ça ressemble à abattoir. Donc du coup, moi je pense à une corde pour pendre les gens. Et c'est genre numérote ta corde pour pendre les gens, en fait.
Ça peut vouloir dire l'ordre de tes priorités.
J'espère que t'as pas oublié d'emmener les animaux à l'abattoir, un truc comme ça.
C'est comme si t'avais des cibles. Enfin, les abattis, c'est comme les cibles. Enfin, numérote les cibles à qui tu vas faire poser problème ou quelque chose comme ça.
La puce à l'oreille.
L'abattoir, la potence, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont de l'imagination et qu'ils y sont pas allés de main morte, ces ados. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Lacote?
Oui, mais encore une fois, ils sont très près de la réalité.
Ils
ou
sont
d'une,
forts.
Hein. Ou d'une forme de réalité. Ben, bien sûr, les surréalistes et les dadaïstes auraient aimé ce genre de choses. Alors, quand j'entends ces enfants ou ces adolescents donner les réponses qu'ils donnent, d'abord, ils le font de façon très enjouée, et ça, c'est quand même agréable, et ça signifie qu'ils ont aussi réfléchi sur le sens des mots et sur le sens des locutions, vous voyez. Et ils ne disent pas des bêtises, parce que quand j'entends « abattre, abattoir », eh ben oui, abatti, ça vient de là, tout simplement. Les abattis, c'était des abats, le cœur, le foie, la rate, etc., qu'on appelait aussi donc les abattis. Voilà. Et ça vient du verbe battre, premier sens de battre, douzième, c'est-à-dire tuer. Voilà. Donc, numéroter ces abattis, ça veut dire, de façon un peu figurée, on va mettre un numéro sur chacun de ces organes, de ces différents organes fondamentaux, on va dire, avant de se battre, avant d'entrer dans une bataille quelconque. Et alors,
pour être sûr de ne pas en perdre en route.
Pour être sûr de ne pas en perdre en route et pour être sûr aussi de les retrouver. Donc ça veut dire prendre garde. Hein, ça veut dire prendre garde, se méfier. Donc c'est pourquoi on dit il faut numéroter ces abattis avant de partir au combat, par exemple. Hein. Et
plus... Non mais est-ce que c'est une phrase qu'on utilise sortie d'un contexte de bataille?
Oui, on peut l'utiliser sorti d'un contexte de bataille.
Alors, donnez-moi un exemple.
Ou de bagarre. Vaudrait mieux que Lucie pense à numéroter ses abattis.
Oula.
Avant d'interviewer ce vieil acteur acariâtre, par exemple. Uh-huh. Vous voyez? Et ça veut dire qu'il faut que je prenne garde. Mais là, il n'y a pas de bagarre. Hein. Il n'y a pas de bagarre physique.
C'est donc, la menace, quoi.
Oui, c'est la menace, oui, bien sûr, c'est la menace. Et il y a une autre expression avec abattis qui est vraiment charmante aussi, c'est avoir les abattis canailles.
Ah oui.
Et avoir les abattis canailles, ça veut dire être un roturier, on va dire. Hein, être un roturier ou un frusteux ou un rustre.
Mais canaille comme une canaille.
Comme une canaille, voilà. Le mot canaille a le sens là de malfrat, de scélérat, de bandit. Enfin, tous ces gens-là avaient forcément les abattis canailles. Ils n'étaient pas très nets. Voilà.
Mais alors, est-ce que c'est encore beaucoup utilisé, cette expression? J'ai l'impression que c'est pas trop utilisé par les jeunes. Je me trompe?
Non. Avoir les abattis canailles, non, c'est plus du tout.
Et numérote tes abattis?
Bah, et malgré tout, les jeunes que vous avez interrogés là, ils avaient quand même l'air de savoir. Ils disaient.
Ils avaient l'idée. Ils avaient une idée, mais ils l'utilisaient pas pour autant. Et moi, d'ailleurs, je ne connaissais pas l'expression avant. Elle m'a ravie, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée, parce qu'elle m'a fait beaucoup rire. Mais c'est une expression que je n'ai pas entendue, moi.
Oui, bah, alors il faut être vieux comme moi pour la connaître encore et l'utiliser encore, je crois.
Bon, et ben merci beaucoup Daniel Lacote de nous avoir aidé aujourd'hui encore à comprendre une nouvelle expression de la langue française. J'espère que c'est plus clair pour tout le monde et que tous nos auditeurs sauront quoi dire au prochain qui leur cherchera des noises. Daniel Lacote, nous aurons donc certainement le plaisir de vous retrouver une autre fois encore pour d'autres aventures dans la puce à l'oreille. Mais d'ici là, ben moi je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour une nouvelle expression de la langue française. J'espère que vous serez au rendez-vous, vous aussi Yvan, parce que sinon vous pouvez d'ores et déjà numéroter vos abattis. Regardez, j'ai bien tenu la leçon, moi aussi.
Merci, Lucie.
Au revoir.
Thank you.
Eh bien, je suis déjà en train de les numéroter, ma chère Lucie. Abati numéro 1, Abati numéro 2, Abati numéro 3. J'abrège pour ne pas fatiguer l'auditeur. Et je remercie tous ceux qui ont participé à cette danse des mots d'aujourd'hui, qui, comme à l'accoutumée, est proposée par le réseau Canopée et par RFI. Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar.
Souhaitez réécouter l'émission La Danse des mots ? Rendez-vous sur le site internet rfi.fr.